Voilà, chauffer la salle, c'est le cas de le dire. Je vous remercie d'être venu malgré ce grand froid. J'ai pris tous vos reproches et toutes vos critiques très au sérieux. Si, bien fondé d'ailleurs. Un reproche n'est pas forcément quelque chose de négatif quand il est bien fondé. C'est quelque chose qui nous fait apprendre beaucoup de choses. Donc moi, je ne vais pas lire un texte ce soir, à part un seul petit passage de Difficile Liberté, où il est question du chien Bobby. Parce que si vous ne connaissez pas ce chien, on aura du mal à se parler. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas été là, ou ceux qui avaient du mal à suivre, ce que je comprends, parce que j'étais d'une trop grande vitesse la dernière fois, je résume quand même un peu, hein, pour qu'on puisse s'approcher non pas seulement de l'animal, mais de ce que j'appellerais animalité au pluriel, hein, en me disant tout de suite, et là, moi j'assume ce que je dis, c'est pas forcément Lévinas qui dit ça, il n'y a pas un seul animal, il y a plusieurs animaux, et il y a surtout une animalité qui nous traverse. Hein. Donc, je vais surtout essayer de préciser certaines notions chez Lévinas, hein, qui sont l'humanisme de l'autre homme, l'humain, l'anti-humanisme et le non-humain, et donc par ce biais l'animalité et les animaux. Bon, je vais essayer tout ça, je ne sais pas si ça va marcher ou non. À vous de me freiner à chaque instant et à ne pas attendre un monologue d'une heure, hein, de préférence, donc vous pouvez tout de suite créer gare. Ça va être d'autant plus vivant. Je résume quand même un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a parlé d'une hospitalité qui n'est pas n'importe laquelle, qui n'est surtout pas l'hospitalité juridique. L'hospitalité juridique devrait être un effet d'une hospitalité inconditionnelle et absolue, telle que la pense Lévinas, qui précède à chaque fois le juridique, sans maintenant enfermer René Scherrer ensemble dans un huis clos avec Lévinas, je dirais, jusqu'à ce point-là, c'est aussi ton souci, par exemple, une hospitalité inconditionnelle, mais tu vas en parler dans ta propre conférence, cette hospitalité d'un sujet qui, de toute façon, dès le début, doit être reçue par une altérité féminine, hein, on en a parlé longuement, hein, le sujet qui est d'abord l'hôte et ensuite l'otage, on en a parlé longuement aussi dans l'œuvre de Lévinas, ce déplacement d'un hôte qui accueille l'autre ne peut le faire que grâce à un accueil primordial qui serait garanti par une présence féminine dans sa propre demeure. Hein, je ne sais pas jusqu'à quel point vous me suivez, jusqu'à présent ça va. Hein, ce qu'on appelle demeure d'un sujet est tout de suite et d'ores et déjà une demeure avec un être féminin. Le sujet serait donc un être masculin. On avait dit aussi que donc cet être féminin est primordial parce qu'il accueille le maître dans sa propre maison. Sans cela, il n'y a pas de constitution d'une subjectivité qui puisse aller travailler tout bêtement. Pour le dire tout bêtement. Donc c'est à la fois classique, à la fois non classique, parce que Lévinas dit lui-même à un moment donné que cet être féminin n'est pas forcément biologique, mais il porte les traits de l'être féminin. On avait dit aussi que la question de la biologie est une question très compliquée, parce que finalement il s'agit des positions hommes et femmes. Ça peut aussi être deux hommes biologiques, deux femmes biologiques, un homme et une femme biologique, mais quelqu'un joue ce rôle, jouerait ce rôle dans une perspective lévinassienne, en tout cas. On avait dit aussi que ce féminin était ambigu, hein, ça c'était plutôt la deuxième conférence, où on voyait que à la fois le féminin est primordial et primaire parce qu'il ouvre l'éthique. N'oublions pas que l'éthique de Lévinas n'est pas une règle universelle. Il ne s'agit pas du tout de l'impératif catégorique de Kant. Non, ça ne donne pas lieu à une loi universelle. Mais ça veut simplement dire que l'autre me précède. Donc je dois toujours quelque chose à l'autre. Et cette éthique n'est pas généralisable. Elle ne regarde que moi. Devinas répond à chaque fois qu'on lui dit « et autrui, est-ce qu'il me doit la même chose ?» Et Devinas dit qu'à ce moment-là, c'est son affaire. Donc il faut d'abord que je négocie avec moi. Autrui me précède, mais ce n'est pas symétrique. On avait souligné longuement que ce rapport à autrui est un rapport asymétrique. Autrui me précède toujours, ou me précéderait toujours. Maintenant, ce féminin qui, dans un premier temps, est certes classique, parce que le féminin qui est dans la demeure accueille le sujet, donc l'homme, a aussi un autre côté où il devient secondaire. Il devient secondaire quand il devient érotique. On avait mis au centre la notion du visage chez Lévinas. Donc le visage serait le commandement éthique. Il serait irréductible à un phénomène. C'est le visage d'autrui qui me commande et qui est à la fois l'interdiction du meurtre et la possibilité du meurtre. Lorsqu'on approche le féminin éthique et maternel, celui-ci est toujours primaire. On voit que dans Autrement qu'être, le sujet devient maternel, portant des traits féminins, se substitue à autrui, se sacrifie pour autrui. Il est à mille milles de cet autre féminin qui serait le féminin érotique. Le féminin érotique est un danger pour l'éthique. Le visage est un visage retourné, est une caricature du visage éthique. Il est inversé et ce visage n'appartiendrait pas encore à l'éthique. Est-ce que tout ça c'est clair? Ou est-ce qu'il y a des questions sur ça? Je vous épargne cette fois-ci des citations. J'ai longuement cité avant, mais si vous voulez des citations, je peux vous les donner. Parce que pour moi, c'est un devoir d'être fidèle au texte. Donc là, j'ai résumé aussi bien que je peux ce qu'on a fait jusqu'à présent. On avait une discussion assez longue où on parlait justement de l'asymétrie dans la différence sexuelle, que ces deux êtres ne forment jamais un tout, qu'il ne s'agit pas d'un platonisme, ce n'est pas le banquet, il n'y a pas de fusion. Et très bizarrement, malgré qu'il n'y ait jamais eu un rapport, à mon savoir, entre Lévinas et Lacan, on voit qu'il y a une certaine proximité à cet égard, parce que le rapport sexuel, dans ce cas, est impossible, c'est-à-dire nous ne formerons jamais un tout. Sauf que pour Lévinas, ce n'est pas du tout regrettable, on ne demande pas de former un tout symétrique, pas de fusion. L'altérité serait préférable non pas seulement à la fusion, mais aussi à une identité fixe. C'est-à-dire le sujet est toujours en devenir. Dans Autrement qu'être, contrairement à Totalité infinie, il n'y a plus de sujet, il n'y a qu'une subjectivité qui est dénucléée. C'est un peu ça ce que Lévinas partage avec tous ceux qui ont destitué, déconstruit le sujet, même s'il n'a jamais fondé son œuvre dans un structuralisme ou dans une perspective qui serait finalement une rupture radicale avec un humanisme. Ceci dit, les bases de l'humanisme chez Lévinas sont des bases bien différentes d'un humanisme classique parce qu'il s'agit de congédier complètement l'ego. Il ne s'agit pas d'un humanisme classique dans la mesure où il s'agirait d'un humanisme de l'autre homme et pas d'un humanisme de l'homme qui est surtout un sujet de la conscience et du pouvoir. Donc maintenant, on va faire le pas, on va franchir ce pas qui nous conduit à l'animal. Et je commencerai justement par la femme ou cet être féminin qui, quand il est érotique, déjà peut gagner des traits de l'animal. Pour ça, il faut quand même que je cherche ma feuille avec les citations. Et si je ne la retrouve pas, tant pis. Voilà ce que je vais trouver. Alors, la caresse ne vise ni une personne ni une chose. Elle se perd dans un être qui se dissipe comme dans un rêve impersonnel sans volonté et même sans résistance, une passivité, un anonymat déjà animal ou enfantin, tout entier déjà à la mort. La volonté du tendre se produit à travers son évanescence, comme enracinée dans une animalité ignorant sa mort, plongée dans la fausse sécurité de l'élémental, dans l'enfantin ne sachant pas ce qui lui arrive. La caresse vise le tendre qui n'a plus de statut d'un étang, qui, sorti des nombres et des êtres, n'est même pas la qualité d'un étang. Le tendre désigne une manière, la manière de se tenir dans le no man's land, entre l'être et ne pas encore être. Manière qui ne se signale même pas comme une signification, qu'en aucune façon ne lui, qui s'éteint et se pâme, faiblesse essentielle de l'aimer, se produisant comme vulnérable et comme mortel. Hein? Il y a une autre citation que je ne trouve pas, mais que je cite par cœur en partie. Et on joue avec lui comme un jeune animal. À ce moment-là, ce féminin érotique n'a plus le statut de l'humain. Ça a choqué pas mal de personnes, surtout de la gente féminine, qui se sont dit, nous voilà réduits au rang de l'animal. Cela peut choquer. Je dois dire, ça m'a choqué au début. Maintenant, ça me choque pour d'autres raisons. Je vais vous parler de ma suite de choc. Le premier était effectivement celui, donc, je ne suis pas à la hauteur de l'homme. Ça veut dire que je suis irresponsable et un peu bête. Ça aussi, c'était dans cette citation. Et maintenant, je me dis, mais comment ça se fait quand... Et tout de suite vexé quand on est comparé à un animal. Ça marche seulement si on dit que l'animal est forcément inférieur. Pas seulement au niveau éthique, mais à tous les niveaux. Toute la tradition philosophique pose l'animal, et là il n'y a pratiquement pas de faille, comme inférieur. L'animal n'a jamais été à la hauteur de l'homme. Et donc il y a toute une succession, du moins ça c'est ma thèse, si on secondarise l'être féminin, et presque toute la philosophie le fait, on secondarise aussi l'animal et l'enfant. Ce qui reste comme sujet philosophique, c'est donc l'homme vire. Et on peut démontrer pas à pas que c'est le fil conducteur de toute une philosophie occidentale. Il y a des gens qui l'ont montré. Et là-dessus, Lévinas est celui qui rend... Un parmi les rares qui non seulement rompt avec des catégories traditionnelles, il fait danser ces catégories et en même temps il signe ses textes en tant qu'homme, ce qui est très rare aussi. Donc Lévinas ne fait pas semblant, il va reconnaître que l'homme c'est l'homme. Masculin et pas autre chose, et que le sujet philosophique n'a jamais été neutre, qu'il s'est déguisé en neutre, et que cette neutralité cache à chaque fois l'homme. Ça nous le devons à Lévinas, même s'il n'est pas libre d'un certain phallologocentrisme, et même s'il reste en partie dans cette tradition. L'animal, alors la femme n'a pas de visage lorsqu'il s'agit du féminin érotique. Mais l'animal n'a jamais de visage. Dans la verticalité de Lévinas, on peut dire que c'est d'abord l'homme, puis la partie féminine qui serait maternelle, hein, et puis ensuite les animaux, de toutes sortes. Pourtant, il y a des exceptions, et je vais vous montrer... justement, c'est le seul texte que je vais vous lire, un petit extrait. où on verra que Lévinas fait effectivement danser toutes les catégories de l'humanisme, de l'humanité, de l'inhumain, du non-humain et de l'anti-humanisme. Et on verra qu'il propose une nouvelle définition de ce qui serait une catégorie éthique de l'humain qui serait plutôt de l'ordre d'une utopie. Ce serait une éthique d'un autre manque-être et pas de l'être. C'est-à-dire cette éthique n'ayant pas d'autre contenu que la prévalence de l'autre. Et non universalisable, donc non consensuel. Et à mille milles de ce que nous proposent aujourd'hui les philosophies de la communication, je pense notamment à Habermas, même si, à mon avis, ce n'est pas un philosophe. Voilà, donc je vous lis maintenant juste ce petit extrait, qui est un extrait autobiographique de Lévinas, qui a été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, prisonnier en uniforme française en Allemagne, et qui a vécu la chose suivante. C'est un extrait de Difficile Liberté, donc Difficile Liberté qui fait partie de ses œuvres talmudiques. Nous étions 70 dans un commando forestier pour prisonniers de guerre israélites en Allemagne nazie. Le camp portait, coïncidence singulière, le numéro 1492, millésime de l'expulsion des Juifs d'Espagne sous Ferdinand V le catholique. L'uniforme français nous protégeait encore contre la violence hitlérienne. Mais les autres hommes dits libres, qui nous croisaient ou qui nous donnaient du travail ou des ordres, ou même un sourire, et les enfants et les femmes qui passaient et qui parfois levaient les yeux sur nous, nous dépouillaient de notre peau humaine. Nous n'étions qu'une quasi-humanité, une bande de singes. Force et misère de persécuter, un pauvre murmure intérieur nous rappelait notre essence raisonnable. Mais nous n'étions plus au monde. Notre va-et-vient, nos peines et nos rires, nos maladies et nos distractions, le travail de nos mains et l'angoisse de nos yeux, les lettres qu'on nous remettait de France et celles qu'on acceptait pour nos familles, tout cela se passait entre parenthèses. Être enfermé dans leur espèce, malgré tout leur vocabulaire, être sans langage. Le racisme n'est pas un concept biologique, l'antisémitisme est l'archétype de tout internement. L'oppression sociale elle-même ne fait qu'imiter ce modèle. Elle cloître dans une classe prive d'expression et condamne aux signifiants sans signifier et dès lors aux violences et aux combats. Comment délivrer un message de son humanité qui derrière les barreaux des guillemets, s'entend autrement que comme parler simiesque. Je ne sais pas pour ceux qui ont lu le différent de Lyotard, on voit que c'est justement ce passage qui a pu évoquer tout ce qu'il a construit sur ce différent. Je continue. Et voici que vers le milieu d'une longue captivité, pour quelques courtes semaines, et avant que les sentinelles ne l'eussent chassé, un chien errant entre dans notre vie. Il vint un jour se joindre à la tourbe, alors que sous bonne garde, elle rentrait du travail. Il vivotait dans quelques coins sauvages, aux alentours du camp. Mais nous l'appelions Bobby, d'un nom exotique, comme il convient à un chien chéri. Il apparaissait aux rassemblements matinaux et nous attendait au retour, sautillant et aboyant gaiement. Pour lui, c'était incontestable, nous fûmes des hommes. Le chien qui reconnut Ulysse sous le déguisement à son retour de l'Odyssée était-il le parent d'une autre? Mais non. Là-bas, ce fut l'Ithaque et la patrie. Ici, ce fut nulle part. Dernier conscient de l'Allemagne nazie, n'ayant pas le cerveau qu'il faut pour universaliser les maximes. De ses pulsions, il descendait des chiens d'Égypte. Et son aboiement d'ami, foi d'animal, naquit dans le silence de ses aïeux des bords du Nil. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir à ce texte? Non? Merci.
Tu prends du sucre?
Non, merci. Bon, moi j'estime... Non, mais je comprends, mais là je demande à chaque fois.
Quand on écrit, dans l'histoire du chien, elle est liée à un camp où les gens ont fait leur
vie. Oui.
Donc ça rend, par exemple pour moi, ça me rend difficile... D'élaborer quelque chose sur une féminin, quand il y a cette lourdeur du camp, où les gens ont été pris là parce qu'ils étaient juifs. Alors, je ne sais pas, d'un seul coup comme ça, je ne pourrais pas, mais je sens que je ne suis pas complètement d'accord avec ce glissement qui fait que l'animal devient. Est considéré. Je vois pas très bien en quoi le chien du lys, il est différent. En tout cas, il dit que l'autre, il revient vers une nation, vers un territoire connu. Et là, dans le camp, ils sont hors territoire.
Oui.
Quelle est la différence entre les deux chiens?
Oui, là, c'est vous qui êtes rapide. Là, ça va trop vite. Vous avez bien raison, toutes ces questions se posent et elles sont très importantes. Mais on va essayer peut-être d'abord de développer un peu. Là, il ne s'agit pas en premier lieu du féminin. On est d'accord, il faut d'abord se mettre d'accord sur ça. Ce qui se passe là, c'est une scène qui joue dans ce camp et qui, à mon avis, ça c'est mon hypothèse en tout cas, renverse toutes les catégories ou fait vibrer, fait frémir des axes, toutes les catégories de l'humanisme classique. Pourquoi ? D'abord parce que normalement l'humain est défini comme celui qui a la conscience, qui a le langage et qui a le pouvoir de construire son monde. Là, ce qui arrive, ces prisonniers ont un langage que les autres ne comprennent pas. Dans différents de Lyotard, on voit qu'il y a des torts qui ne peuvent pas être exprimés, dont on ne peut pas témoigner, parce qu'on n'a pas le même code de langage que l'adversaire ou que le bourreau. Donc, ils sont réduits au silence, ça c'est dans ce texte, et ils sont réduits au silence par d'autres humains biologiques. Quand je dis humains biologiques, la question de l'humanité des nazis se pose évidemment. C'est une autre question. Donc, ce sont des humains, ces juifs qui sont dans ce camp, qui sont réduits au rang de la bestialité. Là, on ne peut même pas dire animalité. Bestialité. Donc, vous avez d'un côté ceux qui ont le langage, qui parlent et qui ont la raison, et d'autre part, vous avez ceux qui sont les victimes de cela et qui ne peuvent pas témoigner de leur tort. Ouais, là, je vais un peu plus loin que le texte. Et puis vous avez surtout l'absence de toute communication entre les uns et les autres, et vous avez ce chien qui va donc être, j'aimerais dire, la seule personne qui, c'est pour ça qu'il dit dernier conscient, qui reconnaît ces hommes comme son maître. Ça d'ailleurs, là-dessus, il y a beaucoup à dire. Ce chien n'est pas pensé à partir de la catégorie de l'animal, mais c'est toujours dans une perspective humaniste, bien sûr. Bien sûr. Donc, on n'a plus du tout affaire à un humanisme classique. On n'a pas non plus affaire à un humanisme qui dirait il n'y a plus du tout de subjectivité. Un anti-humanisme qui dirait il n'y a pas de subjectivité. D'ailleurs, Lévinas a à la fois une critique de l'anti-humanisme et à la fois il voit le bien fondé d'un anti-humanisme et qui reproche justement que à l'humain de n'être pas assez humain dans un sens éthique. Donc les anciennes catégories ne sont plus tenables, et même s'il n'y a aucun passage que je connaisse qui pourrait démontrer que Lévinas s'est préoccupé d'Adorno, ou Adorno de toute façon de Lévinas, on voit très bien que pour Adorno, par exemple, il s'agit d'une vraie défaillance de la rationalité. C'est la rationalité de l'homme, c'est la raison de l'homme qui est en jeu. Pour lui, il ne s'agit pas du tout d'un échec de la raison, mais d'une hyper-raison. Il dit que c'est ça a conduit au nazisme. Pas une défaillance, mais un calcul très humain qui met effectivement en crise la notion de l'humain. Et ça, Lévinas est très attentif à cela. Donc ce chien a plus d'humanité au sens lévinassien et plus proche de l'éthique lévinassienne que les autres. Et ça renverse pas mal de choses. Donc il y aurait ce chien qui serait un lieu de passage entre l'animalité et entre l'humain.
C'est la poésie, la vitesse qui est incroyable.
Oui. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut le lire, ce texte, il ne faut pas le raconter. Ça le détruirait, il ne faut pas le... Hein? Vous êtes d'accord avec moi? De temps en temps, il faut quand même se tenir aux originaux, parce que... Hein? Donc, en lisant ce texte qui est compréhensible, je pense, pour tout le monde, qui n'est pas du tout un texte hyper cérébral ou philosophique au mauvais sens, hein, on sent que toutes ces catégories commencent vraiment à bouger. Et que cet humanisme de l'autre homme ne peut plus se fonder dans une identité du sujet classique. Ce n'est plus « je pense tant que je suis hein ». C'est « je souffre, tu souffres, et je sens ta souffrance parce que tu souffres », en commençant par le « tu ». Donc, le critère, c'est la souffrance. Pardon ?
Et en écoutant le chien parler.
En écoutant le chien parler, ça, c'est une question très intéressante. Parce que Lévinas n'est pas du tout... Lévinas, finalement, n'est pas quelqu'un qui s'est préoccupé beaucoup, beaucoup de l'animal. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on peut aussi critiquer. Pourquoi ne pas dire l'humanisme de l'autre vivant ? De tout ce qui souffre, on pourrait se le demander. Ce sont des choses. Mais en tout cas, il a cette ouverture-là de dire qu'à ce moment-là, ce chien est plus proche du langage, d'un langage qui serait en tout cas pas le langage des bourreaux, qui ne passe pas par langage articulé et conceptuel, hein, mais par le langage émotif du chien. On peut maintenant aller plus loin et dire, finalement, même si on dit que l'animal n'a pas de langage articulé, il y a peut-être un autre langage. En tout cas, c'est ce que je dis. Je suis certaine que les animaux, pas seulement les chiens, ont un langage. Et que c'est pas allé assez loin pour dire qu'il y a d'une part l'animal et d'autre part l'homme. Il y a les animaux qui ont des langages différents, mais qui ne sont pas notre langage. D'où notre arrogance de réduire ce qui n'est pas notre langage à quelque chose qui serait forcément inférieur. Mais en tout cas, Lévinas a ouvert. Il a fait une grande ouverture par rapport à ce problème. Et ça, c'est très important. Même s'il n'a pas pensé, pensé jusqu'à la fin, parce que finalement, ce qui l'intéresse, c'est l'homme, pas tellement l'animal.
Je pense que moi, je ne le perçois pas comme une question de langage. Je le perçois comme une question de ressenti, de reconnaissance. Le chien, qui lui, n'est absolument pas sensible au discours. Ne sait pas, il ne voit pas s'il y a des poils jaunes, s'il y a pas mort. Pour lui, le chien, il reconnaît ce groupe d'hommes comme étant un groupe d'humains.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Donc, le chien, même si on le faisait un tout un baratin au chien en lui disant que c'est pour pouvoir leur parler, lui, il reconnaît bien comme
oui.
Je pensais pendant que vous parliez, mais c'est en dehors du sujet philosophique, je pense par exemple les personnes âgées qui n'ont plus de contact qu'avec les animaux parce que l'animal se moque des rides ou des déformations.
Tout à fait.
Bon, ou les SDF, enfin, j'attends encore plus qui ont des animaux. Bon, parce que l'animal, là aussi, se moque de la situation de fortune, de.
Bon, oui.
Voilà. Oui. Donc, il y a tout un discours, toute une convention que l'animal ne comprend absolument pas, enfin, sans doute. Mais il reconnaît l'être humain comme tel.
Oui.
Peut-être comme son chef de main, peut-être, j'en sais rien, c'est un spécialiste de chien qui pourrait dire.
Ou un chien. Merci, oui. Donc, Lévinas ne va pas aussi loin de dire que ce chien a un visage. Bien sûr que non. Moi, je connais que trois extraits dans l'œuvre où il donne cette prévalence à un animal. Hein. C'est le coq. Qui annonce le jour, plus précisément qu'autre chose. Et puis, dans une leçon talmudique, pourquoi il est important de donner à boire un chameau. Mais en gros, ce sont les trois animaux qui reviennent. Hein? Ceci dit, cet humanisme de l'autre homme reste un humanisme de l'autre homme. Hein? Donc, il reste même cette verticalité par rapport aux animaux, et l'animal n'a pas de visage. Et qu'est-ce que ça signifie si nous disons que l'animal n'a pas de visage? D'abord, dans un sens non lévinassien, est-ce que l'animal a un faciès? Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, il y a peut-être des expériences ici, est-ce que ça vous est arrivé qu'un animal vous regarde? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que l'animal n'a pas un visage au niveau purement physique? Ce qui n'est pas la définition du visage lévinas, bien entendu. Ou est-ce que vous accorderiez un visage à un animal? Une question que je pose dans la salle. Oui? Il y a une tête, ça c'est oui. Oui. Donc s'il y a une tête, vous voulez dire logiquement?
Il a un visage, il a un regard, et puis il exprime des choses. En fait, quand on est connaît les animaux, à un moment donné.
Il exprime des choses. Donc à un niveau purement phénomène, on dirait qu'on voit le visage. Et nous avons dit aussi que Lévinas ne réduit pas le visage à un pur phénomène, qu'il est en quelque sorte invisible et qu'il y a un commandement. Est-ce que cet animal, ou les animaux plutôt, pourraient aussi, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a aussi un commandement qui s'adresse à nous? Lévinas dit non. Il le dit carrément.
Alors là, il faudrait poser la question peut-être à des scientifiques qui ont passé leur vie avec des singes, par exemple.
Bien, ouais.
Parce que je pense qu'ils ont une autre perception de l'animal que nous. Enfin,
J'essaie de pousser les choses à leur extrême. Hein. Si on peut dire que le critère est la souffrance, la sensibilité, si toute souffrance est gratuite, pourquoi ne pas accorder ce visage éthique aussi à un animal? C'est une question qui reste.
Lévinas, je n'ai pas compris. Lévinas dit que l'animal n'a pas de visage ou il lui accorde un visage?
Lévinas pense que non.
Ah bon, donc il me dit, c'est ça. Parce que chez Lévinas, le visage a une importance constitutive ou révélatrice, c'est ça, dedans. La relation à autrui, c'est ça.
Tout à fait.
Donc il y a une importance, il y a une valorisation, on pourrait dire, du rapport par le visage. Mais alors s'il réhabilite, comme tu l'as dit, l'animal, mais qu'il ne lui attribue pas de visage, comment se fait-il qu'il concilie ce refus de visage et cette réhabilitation du point de vue du vis-à-vis humain ou de la reconnaissance humaine, comme on dit?
Je pense que dans ce texte, ce qui devient clair, c'est que d'une part, il y a les prisonniers qui sont bestialisés, donc déshumanisés. D'autre part, Bobby est en quelque sorte, entre guillemets, humanisé. Le centre dans tout cela reste l'homme. Hein. Lévinas n'a jamais dit autre chose. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'humain. Un humain n'est jamais assez humain. Hein. Mais le centre, c'est pas pensé à partir de Bobby, et ça, je dirais, c'est bien normal dans cette scène-là. Hein. Ce qui importe, c'est bien sûr le rôle des prisonniers. Mais c'est très rare en philosophie qu'on pense, de toute façon, ça on peut même pas lui reprocher dans ce texte-là, mais si on prend l'œuvre de Lévinas, c'est vrai qu'il n'y a pas de moment où c'est pensé à partir de l'animal, ni à partir de la femme, d'ailleurs. Hein. Moi, personnellement, je ne connais pas de philosophe qui essaie de penser l'animal à partir de l'animal, sauf Derrida, puis Elisabeth Fontenay dans ce grand livre formidable, « L'ignorance des bêtes ». Voilà. Et parfois René, mais il n'a pas encore écrit, il l'a dit. Voilà.
Il est difficile, effectivement, de se placer d'un point de vue philosophique où l'on, d'une façon ou d'une autre, on n'attribuerait pas à l'homme une supériorité relativement à l'animal, puisque de toute façon, on est bien obligé de le faire, donc je ne crois pas qu'il une philosophie qui ne le fasse pas. Même dans la philosophie de Deleuze et Guattari, qui ont privilégié à certains moments l'animal et qui ont d'ailleurs écrit des choses très violentes, très critiques, négatives, contre précisément ce rapport à partir du visage, justement dans cette destruction ou décomposition de, justement de contournement de la subjectivité dans Mille Plateaux, par exemple, quand c'est la critique de ce qu'ils appellent la visagéité. Mais et d'autre part une sorte de privilège accordé à l'animal, justement, dans cette fameuse conception du devenir animal. Mais d'autre part, il est très difficile de dire qu'il n'y a pas, qu'il y a une infériorité affirmée de l'homme par rapport à l'animal, puisque le philosophe ou l'être humain, étant donné qu'il écrit et qu'il écrit sur l'animal, ne peut pas se mettre en dessous de l'animal, ce qui serait un petit peu contradictoire et qui interdirait même pour lui le fait de penser et d'écrire. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a bien, qu'on le veuille ou non, quelque chose qui appartient en propre à l'homme relativement à l'animal. C'est également Élisabeth de Fontenay dans son plaidoyer pour les bêtes, et à certains moments est sur le point d'affirmer, on pourrait dire presque une supériorité de l'animal par rapport à l'homme, mais elle ne le fait pas d'autre part. Donc c'est un problème. À quel moment, indépendamment de Lévinas et de toute autre référence philosophique, il y a effectivement impossibilité pour celui qui parle de se mettre totalement en dessous de l'animal. Ou alors s'il le fait, c'est une manière, on pourra toujours dire, c'est une sorte de manière de parler et pour réhabiliter l'animal qui a été condamné, comme le fait Montaigne à partir de Plutarque, par exemple, dans la tradition philosophique classique, où il y a dans l'apologie de Raymond Sebond une grande apologie de l'animal, et qu'à certains moments où l'animal est placé au-dessus de l'homme, ce qui d'une façon satirique est repris par Boileau également, du Japon jusqu'à Rome, le plus haut animal, à mon avis, c'est l'homme. Donc l'homme est discrédité effectivement par rapport à l'animal. Mais il ne peut pas totalement s'effacer. Alors, je pense que la réflexion philosophique, au fond, se tient dans ses limites assez flottantes, c'est vrai, mais quand même assez nettement indiquées. C'est-à-dire qu'il y a un point où, d'une façon ou d'une autre, s'absorber totalement dans l'animal n'est plus une attitude philosophique. Elle peut être mystique, elle peut être mythique également, religieuse, hein, pour eux. Il y a des religions de l'animal, il y en a dans différents pays, Asie, Afrique, Amérique, etc., où les animaux dominent la création et, d'une certaine façon, dominent l'homme. Mais c'est dans un domaine qui est extra-philosophique. La réflexion philosophique, au fond, ne peut déterminer sa position par rapport à l'animal que par une certaine présupposition, malgré tout, du point de vue humain.
Oui, voilà, mais
c'est ça le problème, un peu, et que je voudrais poser pour situer très exactement la position de Lévinas. C'est-à-dire qu'il admet, il n'admet pas la position heideggerienne, par exemple, qui est assez nette, l'homme commence avec le langage, l'homme est le seul qui est un monde, l'animal n'a pas de monde. Chose qui est critiquée par exemple par Deleuze, puisque la première réflexion de Deleuze sur l'animal, c'est précisément celle qui lui attribue un monde dans sa fameuse réflexion à partir de Huxley sur la tique, puisque elle a un monde. Donc on ne peut pas faire la différence entre l'homme et l'animal à partir de l'être au monde. Mais Lévinas, alors, qu'est-ce que c'est, à quel niveau va-t-il faire cette différence? Donc, il n'est pas, de ce point de vue-là, il semble bien qu'il n'adopte pas plus que dans sa métaphysique, exactement l'attitude heideggerienne. Mais il ne l'abandonne pas non plus, totalement.
Merci beaucoup. Je vais dire quel est mon projet, complètement immodeste, c'est de chercher la différence dans l'horizontalité. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est qu'on dit soit l'animal est inférieur, ou bien l'animal est supérieur. Ce qu'à mon avis n'a jamais dit Elisabeth Fontenay, mais là-dessus, faudrait en parler longuement. Et moi, ce que je cherche, c'est... Moi, je veux bien, il y a une différence entre l'homme et les animaux, c'est clair. L'homme n'est pas un animal comme les autres. Hein. Ça aussi, c'est une thèse classique. Mais un chimpanzé a plus à voir avec un homme qu'avec un escargot. Même si ce n'est pas la même chose. Donc, moi, ce que je cherche, mais c'est difficile, mais c'est un chantier, c'est un projet, c'est de chercher les différences du vivant sur une base horizontale. Ça signifie qu'il n'y aurait plus une verticalité où il y aurait une échelle de valeur, de supériorité ou d'infériorité. Le critère, ce serait celui de la souffrance ou aussi celui de la joie. Pourquoi rester uniquement dans les choses négatives? Il est incontestable qu'un animal peut se réjouir et être triste. Il y a des chats qui se suicident, c'est connu. Il y a des dauphins qui parlent, c'est connu. Même s'ils ne parlent pas notre langage, tous ces animaux comprennent le nôtre. Nous ne comprenons pas le leur. Je ne sais pas si ça c'est supérieur, mais en tout cas, on dirait qu'ils ont une plus grande ouverture que nous. Ça, c'est pas Lévinas, c'est moi. Lévinas, quand tu dis le rapport à Heidegger, est bien sûr un rapport très très compliqué. Mais surtout par rapport à la mort. L'être à la mort, on sait que Lévinas, pour Lévinas, la mort n'est pas une expérience. On ne peut pas la transformer en expérience, on ne connaît pas la nôtre. Ce qu'on craint, c'est la mort d'autrui, parce que celle-là, elle n'est pas une expérience pour nous, mais on souffre quand il n'est plus là. Donc il y a une réaction immédiate par rapport à autrui. Mais pour Lévinas, et là-dessus, il ne se démarre pas tellement d'ailleurs, l'animal n'a pas accès au langage, ça c'est certain. Parce que le langage est toujours ce langage humain. Je suis bien d'accord, hein, j'ai jamais entendu un chimpanzé me parler. Ça ne va pas être tout de suite, je pense. Mais tout dépend comment on définit le langage. Le fait d'écrire, tu dis, nous écrivons, nous thématisons les animaux. Lévinas était très très lucide à cet égard en disant que dès qu'on fait une chose, qu'on se transforme une chose en son thème, on en fait un objet. L'écriture a affaire à ça aussi. Bien sûr, nous écrivons, nous pensons, mais qui nous dit si certains animaux n'ont pas trouvé un meilleur moyen que l'écriture? Nous n'en savons rien du tout. Apparemment, il y a des communications. J'ai lu l'autre jour qu'il y a des dauphins qui étaient supposés jouer aux espions. Les Américains leur ont demandé de poser des bombes en dessous des bateaux des Russes. Et au début, ça marchait, puis les dauphins, ils ont commencé à jouer. Donc ils ont repris la bombe, la posant sous le bateau des Américains, puis le bateau il a pété, et l'expérience était finie. Ce n'est pas de l'écriture, mais c'est de la communication. Est-ce que c'était vraiment un jeu? Nous ne le saurons jamais. Donc le critère, pour revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux, le critère ce ne serait pas d'humaniser les animaux. On ne va pas leur demander d'écrire, justement. On va simplement essayer de les percevoir dans leurs différences. Et à mon avis, on ne pourra pas y échapper s'il s'agit de la survie de ce monde. Maintenant, on s'en rend compte parce que la plupart des espèces sont menacées. Et si la plupart des espèces sont menacées, l'homme aussi est menacé, ça c'est certain. Et j'essaierai quand même, encore une fois, de montrer un rapport assez asymétrique entre ce que Lévinas dit de l'animal et ce qu'il dit de l'être féminin, en essayant de lire avec vous entre les lignes de ce qu'il dit, et vous voyez, vous verrez, parce que je vous avais annoncé qu'il y aurait un lien entre hospitalité féminine et animale, et on va peut-être essayer d'approcher ça, et puis on pourra discuter un peu. Ce sont deux citations. Alors, le besoin animal est libéré de la dépendance végétale, mais cette libération est dépendance et incertitude. Le besoin d'un fauve est inséparable de la lutte et de la peur. Le monde extérieur dont il s'est libéré lui reste menace. Mais le besoin est aussi le temps du travail, relation avec un autre, livrant son altérité. Ça, ce serait donc pour l'homme, hein, l'homme qui est le travail, qui se définit donc par le travail. Ce serait, on peut vraiment dire dans un sens marxiste aussi. L'humain, ce serait celui qui travaille, homo faber. Hein, donc, il s'agit de ce fauve qui est toujours inquiet, parce qu'il n'est jamais en sécurité. Et puis, nous avons aussi, s'agira de la femme, qui est tout à elle travaille pas non plus hein, dans la demeure. Elle est là pour accueillir. Accueil humain où le langage qui se tait reste une possibilité essentielle. Ces allées et venues silencieuses de l'être féminin, qui fait résonner de ses pas les épaisseurs secrètes de l'être, n'est pas le trouble mystère de la présence animale et féline dont Baudelaire se plaît à évoquer l'étrange ambiguïté. Et ça s'arrête là. Pourquoi dit-il « n'est pas » ? Il dit « n'est pas » parce que quelqu'un pourrait penser que c'est ça. Il y a donc forcément une proximité. On joue avec lui comme un jeune animal, avec cet être féminin. Donc il y a une proximité, et la proximité est là où il y aurait une irresponsabilité. Donc l'animal ne serait pas responsable, c'est-à-dire non seulement il ne pourrait pas répondre de quelqu'un, mais aussi à quelqu'un. Et à certains moments, l'être féminin partage cela avec l'animal et l'enfant aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez un fil là ou vous ne le voyez pas? Est-ce qu'il s'agit de plusieurs humanités possibles? Moi, j'ai essayé de gratter tout cela un petit peu en remarquant que il y a une différence entre inhumain et non-humain. Hein, l'inhumain serait clairement quelque chose de négatif. Hein, le bourreau est inhumain. La femme et l'animal ne sont pas des bourreaux. L'animal est non-humain et la femme peut avoir certaines qualités non-humaines, pas inhumaine. Donc, ce qui est en crise, là, dans ces catégories, parce qu'on ne va pas s'en sortir, ni ce soir, ni un autre jour, c'est la notion d'humain et de sujet. Et on a beaucoup reproché à Lévinas d'instituer le sujet, mais c'est une des meilleures choses qu'il a faites, de ne pas fermer les identités. Nous avons tous un côté, une animalité selon Lévinas, qui serait au niveau de nos besoins alimentaires. Nous devons manger, dormir, etc. Mais l'homme triompherait, enfin pas triompherait parce que Lévinas n'est pas très héroïque, aurait cela en plus qu'il serait capable de se rendre compte qu'autrui le précède. Donc l'éthique s'approche de l'utopie. Je laisse maintenant la parole à la salle.
Mais ce qui n'est pas très clair, encore pour moi. C'est bon, le sujet masculin, chez les gymnastes, quand ils posent ça comme. Pour moi, c'est, ça prend. J'écoute, hein, mais ça prend pas corps. J'arrive pas à saisir. J'arrive pas à saisir, tout simplement. Parce que ça n'a pas de sens pour moi. Enfin, j'arrive pas. Après, on est tous hommes et femmes. On a tous. On porte tous la féminité et la masculinité, mais le sujet, donc celui qui va penser, celui qui va agir, que ce soit, je trouve ça très occidental, et en même temps. Presque japonisant aussi, avec des images comme ça, la femme à la maison qui accueille, le féminin, l'attractif, le côté féminin comme ça, et le côté masculin qui agit, qui... D'un certain côté, je trouve ça très caricatural, et en même temps, je comprends que c'est pas aussi simple que ça, mais j'arrive pas à faire tous les liens, quoi. Enfin, ça...
Merci. S'il y a quelque chose de caricatural, c'est pas la faute de Lévinas, mais de moi. Hein? Parce que c'est moi qui le présente. Donc, s'il y a des caricatures dans l'air, c'est moi. Sinon, ce serait la chose la plus merveilleuse, c'est de le lire. Hein? J'invite tout le monde à le lire. Ce serait le meilleur résultat de cette conférence, ce serait ça.
Hein? Je commence altérité et transcendance. Même avec un dictionnaire, c'est très compliqué pour moi.
Mais pourquoi ne pas commencer par quelque chose
très, très complexe.
Pourquoi commencer par ça?
Parce que j'ai trouvé ce livre.
Oui.
Donc je l'ai pris. Et puis la transcendance, c'est quelque chose.
Ce serait beaucoup plus simple et probablement plus sympathique dans ce sens-là de commencer par Le temps et l'autre. Un petit livre. Pour ce qui en est des caricatures sexuelles, je voulais juste dire que j'avais espéré me faire entendre sur cela, que justement c'est pas un rapport symétrique, c'est-à-dire dans Totalité et l'infini, il y a encore ce sujet qui est effectivement décrit comme masculin, mais il est déjà ébranlé. Hein, donc c'est déjà, il lui faut cette mère, etc. Donc c'est pas l'homme puissant qui triomphe, etc., etc. Donc il y a déjà une faille, il y a une défaillance. Et puis dans Autrement qu'être, il n'est plus question de sujet. Il y a que la subjectivité qui porte des traits maternels. Donc il y a un cheminement quand même entre les deux, c'est-à-dire,
moi, c'est encore très, très complexe.
Oui. Merci.
Et la pensée de l'horizontale, ça me donne beaucoup de choses. Parce que, à ce moment-là, pourquoi vous n'utilisez pas l'être vivant plutôt que l'être humain?
Moi?
Non, je vous demande, oui.
Moi ou Lévinas? Moi, je vais utiliser l'être vivant.
Parce que alors, ce qui est intéressant, c'est si on parle d'êtres vivants qui n'ont pas forcément un visage, l'animal n'aurait pas de visage, ça nous pose la question d'autres êtres existants dans l'univers.
Aussi, oui. Alors, moi, je suis plus modeste que vous, déjà, je m'occupe de ce qui est assez
produit. Non, mais un philosophe, c'est là pour nous apprendre à penser ce qu'on ne voit pas.
Oui.
Sinon, ça serait trop facile, on va avoir des sociologues pour les regarder. Mais la philosophie, c'est pour nous ouvrir des pensées sur quelque chose qu'on ne peut pas voir, et qui nous permet d'avoir des catégories qui nous permettront, c'est comme les astrophysiciens par rapport aux astronomes. Les astrophysiciens, ils travaillent sur ce qui ne se voit pas, c'est des théoriciens, et les autres regardent dans leurs lunettes et disent, nous, on voit ça.
Alors c'est intéressant parce que ça nous pose, moi je trouve que les Linas là où vous, je ne sais pas, nous ouvre un grand...
Un grand chantier, oui.
Parce que si on parle d'être vivant, à ce moment-là, les extraterrestres, ça fait peur à tout le monde, mais peu importe, c'est des êtres vivants, ils se bougent, ils ont des énergies, tout ça. Ils n'ont pas les mêmes visages que nous, on peut même dire...
J'espère bien.
Lorsqu'on nous présente. Donc c'est intéressant parce que là, on est dans l'infini.
Oui.
Et nous ne sommes pas le tout.
Oui. Oui, mais ce que Lévinas nous apprend, parce qu'il n'a pas parlé d'extraterrestres, mais ce qu'il nous apprend, c'est quand même cette ouverture à quelque chose qui nous dépasse et qui est d'une autre catégorie que le savoir. Sans devenir sans entrer pour ça dans la superstition, dans ces choses-là, mais pour essayer de voir qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'on ressent et qui nous conduisent ailleurs. Mais il faut se détromper, Lévinas, ce n'est pas un mystique. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui aime tout ce qui serait de l'ordre de la superstition, au contraire. Oui, parce que votre discours n'est pas un discours superstitieux, mais si vous voyez, par exemple, c'est une chose qui me choque à chaque fois, le nombre de lettres qu'on reçoit, d'emails qu'on reçoit, si vous envoyez cette lettre à 20 personnes, demain, vous allez être heureux, sinon vous cassez la jambe. Et il y a tout un discours sur les extraterrestres qui va avec, qui n'est pas du tout le vôtre. Voilà.
De la possibilité des astrophysiciens,
oui.
Directeur des labos de Meudon, qui disent qu'il y a forcément des êtres vivants,
oui,
dans l'univers.
Ce serait d'ailleurs très triste si nous étions les seuls, mais est-ce qu'ils ont... Quelle forme ça prend, hein? Ça ne va pas prendre la forme d'humain.
De nos valeurs repose, oui, sur le fait qu'on est les seuls à exister sur Terre.
Voilà, et c'est tout à fait bien, c'est tout à fait dans cette logique. C'est dans cette logique,
c'est intéressant,
oui. Oui, oui.
Un philosophe nous donne des outils de réflexion pour penser quelque chose que tout le monde pense un peu inexistant parce qu'on ne les a pas vus, mais ça nous permet de penser que c'est du possible si on réfléchit en termes d'une pensée horizontale, c'est-à-dire,
oui,
qu'on n'est pas dans un système hiérarchique.
Oui. Ceci dit, et là je veux quand même qu'il y ait vraiment, que ce soit clair, parce que j'aime pas déformer la pensée de Lévinas, ni celle de quelqu'un sur Terre, et même pas sur Terre, même pas celle d'un extraterrestre s'il y en a, que Lévinas aime beaucoup la verticalité, hein. Son œuvre est une œuvre de la verticalité, hein.
Non, mais c'est vous.
Le très haut, etc. Ça c'est moi, c'est pas Lévinas.
Oui, mais ça nous oblige à... C'est pas grave, mais à pas faire même des études sur Lévinas. On se sert de Lévinas pour penser à vous-même.
Et puis on apprend des choses de Lévinas, même s'il est dans un rapport qui n'est pas horizontal. D'ailleurs, cette histoire d'horizontal, ça a l'air bien, bien beau et bien sympathique, mais c'est très, très, très difficile. Hein? Parce que le jugement est partout. Et si on veut, parce qu'avec ça, on veut congédier le jugement de valeur commune, à ce moment-là, il faut faire un grand travail là-dessus. Pas grand, mais en tout cas intense. Voilà. Oui.
Finalement, là, en même droit, l'histoire, c'est à m'interroger sur l'unique et le multiple.
Oui.
Est-ce que je suis unique ou est-ce que je suis multiple? Parce que, en tout cas, à la dernière séance, quand on est beaucoup, chacun est à la fois féminin, masculin, animal, et puis végétal, je ne sais pas. Donc, je suis, à ce moment-là, moi, je suis plusieurs. Sorte de personne, en tout cas. Et après, en allant un peu plus loin, finalement, on peut très bien se mettre à penser que les gens n'existent pas un par un, mais existent comme des. Ce qui existe, c'est des bouts de gens avec des bouts de gens.
Vous êtes dans le morcellement?
Voilà, dans un truc comme ça. Enfin, pas forcément dans le renseignement, mais en tout cas dans quelque chose de. En écoutant, là, ça faisait sauter cette histoire d'identité.
Fixe.
Un individu, une identité.
Ça fait certainement, pardon, Lévinas, sauter l'identité fixe, mais à la fois, vous, dans votre multiplicité, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Je vous le jure.
Oui, mais est-ce que c'est intéressant?
Oui, c'est ça ce qui est intéressant. C'est ça ce qui est intéressant parce que sinon il y aurait les copies. Hein. ce serait effectivement, sinon ce serait un peu le drame, parce qu'on retournerait à une symétrie, vous avec vous, un autre vous, exactement comme vous, et ça, ce n'est pas possible. Multiple et unique à la fois, c'est-à-dire en devenir, là je prends effectivement, pour une fois, une catégorie deleuzienne, devenir multiple, mais à la fois unique. Ça me rappelle aussi un peu Épicure, qui n'était pas tellement dans les devenir, mais dans cette histoire d'atomes qui se rejoignent pour se défaire une fois qu'on meurt, et qui vont se rejoindre autrement, dans d'autres personnes. Donc, moi, je tiens beaucoup à l'unicité des êtres, mais dans le multiple. Pas dans l'un, pas dans l'identité fixe, et surtout pas dans la symétrie. C'est ça aussi le problème. Voilà tout le problème avec le consensus, avec la communication qui se pose. On fait croire comme si on disait la même chose, si on dit la même phrase. Or, ce n'est pas du tout vrai. Chacun l'interprétera différemment. Et cette histoire de multiplicité est très très importante parce que ça se joue à chaque instant, bien évidemment. Et ce serait plutôt quelque chose de positif et une chance, s'il s'agit, comme j'essaie de le dire, de nourrir la pensée avec l'espoir. L'espoir, il serait là. Que rien ne soit fixe.
Qu'est-ce que vous faites du sujet philosophique si vous êtes dans l'unité et la multiplicité?
Le sujet philosophique, en tout cas en France, et c'est une des raisons pour être en France et pour rester en France, est ébranlé depuis plus de 60 ans. Enfin plus, René, tu as été témoin de tout cela, de cette destitution des constructions du sujet, qui n'est plus du tout une valeur qui serait une ambition des philosophes en France. C'est plutôt en Amérique, en Allemagne, etc. Et puis un retour ou un danger de retour de ce sujet, bien sûr. Qui va ensemble d'ailleurs avec une revendication du sécuritaire. Là, ça devient immédiatement politique. La propriété, moi, la menace, l'autre, l'étranger, qui serait un danger pour mon identité, etc. Tout ça, ça ressurgit, mais il y a 10 ans, il y avait très très peu de discours pro-sujet. Et là-dessus, Lévinas a bien évidemment fait une ouverture. Mais ce n'était pas le seul en France. On a eu un premier cru avec la génération de René en France, qui, à mon avis, n'a existé nulle part ailleurs. Que ce soit Deleuze, Foucault, Derrida, Lévinas, et ainsi de suite. C'est même une longue liste. Est-ce que je vous ai anesthésié tous ou est-ce qu'il y a des survivants dans la salle?
Ce qui est intéressant, c'est qui est l'autre. Qui est ce différent de moi qui fait que je vais. Enfin, on en a déjà parlé la première séance, je
crois. Oui. Oui. Qui est l'autre, oui.
Cette problématique-là qui est beaucoup plus intéressante parce que c'est de là que naît le mouvement. Là, ce qui est intéressant, c'est d'être en mouvement finalement.
Et c'est l'autre qui nous fait bouger. Là, voilà. Je suis bien d'accord.
La question essentielle, ce serait celle-là.
Oui.
Pour dire survivre, pour continuer à vivre actuellement, enfin, pour se la poser comme ça. Parce que sinon, effectivement, on retourne dans un peu de renfermement, encouragé, parce que plus que jamais, on dit, mais qu'est-ce, pourquoi ça ne fait pas lire, pourquoi ça ne fait pas lire, pourquoi ça ne fait pas lire politiquement, quoi. On n'arrive plus. Parce que de l'autre côté, effectivement, il y a tout ce retour venu d'ailleurs et cultivé du sujet qui fait qu'il y a la peur de l'autre, l'enfermement, et la peur et puis la sécurité, comme tu l'as dit. Mm-hmm. Donc ça, c'est la mort.
Oui.
Quelque part.
Oui, tout à fait, c'est très très important, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment un retrait et une phobie par rapport à tout ce qui est étranger, ce qui est différent, et ce qui pourrait nous surprendre, ce qui donnerait lieu à une rencontre, ou à un événement, ou à ce qui serait sans protection, ce qui surgirait, ce qui pourrait nous faire découvrir aussi bien des bonnes choses que des mauvaises. Hein. Des mauvaises, il y en a aussi, on est bien d'accord. Mais ces temps-ci, on parle que de ces mauvaises rencontres. Donc il faut déjà demander les papiers, mais on peut aussi faire ça d'une autre manière. Hein. Même si on n'est pas des flics, on peut demander qu'est-ce que tu fais, quel est ton travail, où habites-tu, avec qui vis-tu. Donc il y a tout un catalogue de questions qu'il faut d'abord poser avant d'accueillir autrui.
C'est vrai que le ressentir au quotidien aujourd'hui, ce que moi je ressens, c'est que c'est plus des yeux de porc comme ça, de l'inconnu, tu vois, bon, dans les airs d'esprit. Et c'est quand je bouge dans l'espace public, je sens. Mais il n'y a pas de mots. Enfin, dire que pourquoi je ressens, parce qu'il y a une présence aussi dans l'espace public de l'interdit. Enfin, c'est physique. Hein, moi, j'ai pas 15 km aujourd'hui en voiture, j'ai vu des flics partout, en train de contrôler tout le monde. Et ça fabrique en soi la méfiance et encore la peur et l'isolement. Pourvu qu'il ne nous voit pas, j'ai rien fait, mais j'ai pas mis cette expérience du contrôle. Bon, ça crée une espèce de phobie dans l'espace public.
Oui.
Qui devient très forte. Mais c'est une espèce d'inconscient intégré, et de temps en temps, il faut se dire, attends, c'est quoi ça? On a l'impression d'être en état de guerre, tu vois, une espèce de couvre-feu, je dirais. Une espèce de couvre-feu permanent. Il y a de ça, et c'est insupportable. Tu vois, ça devient insupportable quand tu balades dans l'espace public. Actuellement, je ressens ça comme ça, personnellement. Et ça coupe tout désir de respirer l'espace public. Et ça veut dire, c'est s'attarder, parler aux autres.
Oui.
Ça commence par des choses sécuritaires. Trois jeunes en bas de l'immeuble, c'est interdit, tu vois. Bon, donc, il y a certains pays, effectivement, qui étaient, j'y parle beaucoup à l'Est, hein, de l'Est, où les réunions à partir de trois personnes, c'était interdit dans l'espace public. Mais, et là, c'est pas dit comme ça, sauf pour certaines catégories d'espace public bien précises, c'est dit. Mais plus largement, on ressent cette espèce de pesanteur ambiant. Et après, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça, c'est au quotidien aujourd'hui. Pour moi, enfin, pour vous, on peut se mettre sa tête dans un sac, puis on n'en voit rien. Mais l'espace public, il devient irrespirable.
Et surtout, complètement réductible à la consommation.
Absolument.
Pas la consommation friquée, parce que bon, il y a de moins en moins de fric aussi. Mais au niveau de la consommation, aussi au niveau des prises de parole. Hein. Il y a de moins en moins de prises de parole spontanées entre les gens. Je ne parle pas des conférences, c'est autre chose. Mais je dis simplement dans le métro, dans le bus, etc.
C'est parce qu'il y a un travail théorique qui n'a pas été fait.
Oui.
Parce que je pense que si les responsables du gouvernement voulaient davantage travailler les textes de Guattari et de Deleuze, il y a beaucoup de choses qui ne se passeraient pas maintenant. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que c'est des gens qui ont travaillé en étant quand même minoritaires dans la réception de leur travail. Quand un livre de Guattari se vendait à 500 exemplaires, je trouve ça une honte. Ça veut dire que sur la France entière, il n'y avait que 500 personnes qui pouvaient être intéressés par un livre comme Chaosmos ou des choses qui sont
venues. Non, ça ne veut pas dire simplement parce que. Il y a plus, parce que l'audience des penseurs ou d'intellectuels ne s'étend pas uniquement à ceux qui achètent leurs livres.
Quand on fait des conférences, on s'intéresse
sur Guattari,
il y a beaucoup de sociologues, sinon alors, si ce travail qu'ils ont fait de réflexion pour répondre aux questions que Annie posait, ça veut bien dire que ça n'a pas irrigué le tissu social.
Ah, oui.
Et que ça n'a pas irrigué les gens qui ont des responsabilités. Si vous allez à l'ENA, pour ceux qui nous gouvernent, moi j'ai été parler de Guattari, c'est des gens qui, ça leur paraît un monde impossible à penser.
Mais est-ce que c'est pas. Spontanément, ça peut être une grande chance. Hein. Non, j'imagine que eux qui.
Éclairé.
Ben à ce moment-là, il ne gouvernerait plus.
Pourquoi tu ?
Avec des temps qui courent.
Non, mais il faut aussi accepter de reconnaître que certains travaux théoriques n'ont pas été faits et qu'une forme ça reste dans un milieu. Ce n'est pas un reproche de ceux qui ont produit, c'est à nous que je le reproche. C'est pas.
Oui, mais ça, c'est quand même là-dessus, je serais moins morale, parce qu'il y a toute une politique de l'édition. Il y a une politique d'édition qui fait que, parce que le livre de poche, il est quand même réservé à très peu de gens.
Non, mais si on ne travaille pas ça, on ne travaille pas les résistances à comprendre ces questions-là. Et alors, on continue dans la répétition. C'est que ce travail qu'il faut. Guattari, alors c'est dommage, on ne parle pas des lumières, moi je connais moins bien les lumières, mais ça veut dire qu'il y a des formes de résistance qui s'inscrivent et c'est qu'il faut comprendre ces formes de résistance.
Je vais jouer l'avocat du diable. Vous prenez Chaosmos, vous donnez ce livre à un échantillon de la population, n'importe lequel. Moi je reconnais volontiers que pour dire Chaosmos, moi, j'ai eu un mal fou. Je trouve que c'est un livre indigeste. Et je suis certaine que je partage énormément d'idées dans ce livre. Donc, je ne suis pas du tout une ennemie du contenu de ce livre. Mais je comprends tout le monde qui préfère lire les fables de La Fontaine avant de se coucher que de lire Chaosmos.
Oui, mais c'est des groupes. Non, mais c'est ça qu'on dit le travail. Pour moi, c'est du travail de faire ça. C'est pas des choses qu'on prend comme ça. On l'avoue.
Ça, c'est pas seulement plus.
On laboure collectivement.
500 exemplaires, mais ça dépend combien on est autour de chaque exemplaire. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas d'un coup.
Non, mais parce que c'est
formidable. Embrasser, ça.
Mais il faut savoir que c'est du travail. Oui. Et que c'est. On est, alors tout à l'heure, on disait des choses, mais je veux dire qu'on est. À part le truc qui sort d'université, ici, regardez sur combien on est pour un travail comme ça. En plus, on est quatre du bas Montreuil.
Là, je dirais, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité, et j'ai beaucoup de chance.
Non, mais parce qu'on essaie de faire un travail sur d'autres thèmes, c'est pas par hasard qu'on est là.
Oui, oui.
Et qu'on s'intéresse à l'épinac, et qu'on s'intéresse à certainement des choses.
C'est l'intervention de Annie Agopian, qui m'a envie de rebondir là. Tu décris donc une société policière et cloisonnée et fermée. Et moi, sur les questions d'hospitalité, j'ai une autre image qui me frotte dans la tête fort. C'est la manière dont les Roms sont présents en région parisienne. Avec une grande difficulté à désigner de manière fermée ce qui se passe. À la fois, c'est une inhospitalité ahurissante, hein, c'est-à-dire vraiment, quand même, c'est des gens qui là, à deux pas de chez eux, dorment dans la rue, le froid, ces jours-ci, ce soir, et plusieurs milliers de personnes qui sont très bien retirées, pas forcément maltraitées d'ailleurs, hein, mais par exemple, la police n'expulse pas depuis longtemps ces personnes-là, d'ailleurs, c'est pour ça que le livre est chez nous. Parce qu'ils savent que la police ne les poussera pas d'ici. Et tout ça, bien sûr, est l'objet d'un accord plus ou moins explicite, plus ou moins implicite entre les autorités locales et le ministère de l'Intérieur, comme ça la police. En fait, on n'est pas dans la coïncidence, on est dans quelque chose qui est bien. Donc quelque chose qui est vraiment absolument inhospitalier. Et puis en même temps, ces gens-là vivent ici de la mendicité uniquement, et donc ils sont bien accueillis par la population de la région. Il y a quand même, à Montreuil, environ 300 à 400 personnes qui ne travaillent pas, qui vivent exclusivement dans la mendicité. Mm-hmm. Et donc, dans ce rapport-là, pré-juridique, d'hospitalité, mm-hmm. on est bien dans les. On est complètement incapable d'interpréter, de donner un sens. Simple à l'histoire. Et je trouve ça assez extraordinaire. Et puis, alors, quand on, effectivement, quand on côtoie un peu, on devient ami avec les Roms, on se rend compte que leur manière de vivre, qui est vraiment très organisée sur autour de la relation, et pas du tout dans l'accumulation, et que là, il y a quelque chose qui est extrêmement proche de nous, finalement. Très très proche et très étranger. Mmh. Donc, c'est pour dire que ça me paraît moins fermé que ce que Annie disait. C'est-à-dire que la question est ouverte. Est-ce qu'on est hospitalier ou pas? Non, pas du tout, et on est horrible, etc. Et en même temps, oui. Puisque dans nos poubelles, les gens trouvent de quoi vivre, quoi, quand même.
Oui, mais ça reste des poubelles. Hein.
C'est des poubelles, mais c'est aussi des relations.
Oui.
C'est aussi des relations. Ce sont des poubelles qui ne sont pas interdites. Et...
Mais voilà, par exemple, un concept, là, une notion qui fait partie intégrante de la pensée de Lévinas. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est. On peut envisager l'hospitalité de différentes manières, dans la pratique, comme concept juridique, moral, mais une des particularités de Lévinas, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est d'avoir été, je pense, le premier d'ailleurs, à avoir inséré ce mot dans ce concept dans sa propre ontologie, c'est-à-dire dans sa conception, cette philosophie, cette ontologie fondamentale, je dis ontologie, ce n'est pas pour dire un mot pompeux, mais enfin, c'est pour permettre de désigner par là une philosophie première, une base même de la réflexion philosophique, puis c'était ça qui était en question, sur quoi la philosophie contemporaine peut-elle réfléchir, sur quoi peut-elle porter. Or, chez Lévinas, ça va au-delà d'une ontologie, puisqu'il écrit, il a critiqué justement cette idée d'un être qui était un petit peu trop limité à l'être du sujet, aux catégories de l'être traditionnel. Et il a élargi justement à tout un tas de choses qui n'entraient pas dans la réflexion philosophique. Justement, on disait tout à l'heure comment y entre le féminin, etc. Justement, en dehors de ces catégories qui étaient celles de la pensée philosophique traditionnelle, et même moderne, avec les mêmes contemporaines, avec la phénoménologie de Husserl, ou celle de Heidegger, ou la pensée existentielle également de Sartre, il a porté tout ça au-delà. Je ne parle pas de Deleuze qui a simultanément, ou de Derrida, ce sont des gens qui simultanément ont développé également aussi des pensées un peu analogues, un peu parallèles. Mais puisqu'il s'agit de Lévinas, justement, je crois que l'intérêt là, de cette philosophie, c'est d'avoir introduit justement des termes et des concepts qui n'appartenait pas au champ de la réflexion philosophique qui était limité à un certain nombre de notions, d'objets, de conceptualisations. Alors, puisque vous aviez soulevé le problème de l'hospitalité, il le fait entrer comme un élément, justement, fondamental dans cette philosophie qui est essentiellement orientée vers l'autre. C'est ça, vers ce qui est la relation à l'autre et d'un point de vue à la fois théorique et d'un point de vue également pratique, éthique, et qui fait entrer beaucoup de choses. Donc on pourrait dire que sa philosophie donne l'hospitalité à ce moment-là à l'animal, qu'elle donne l'hospitalité à la femme en tant justement que dimension hospitalière. Vous disiez au fond tout à l'heure, vous souleviez cette question effectivement intéressante parce que la distinction conceptuelle sur ce plan-là n'est pas tellement commode. Pourquoi comment y entre la femme? Pourquoi la femme va-t-elle tout à coup entrer dans un rôle tout à fait déterminé? Moi, personnellement, j'en avais discuté avec Paulette justement de ce problème. Est-ce qu'il y a une conception limitative de la femme qu'il réserverait comme femme justement pratiquant la vertu hospitalière à la maison ou pratiquant la maternité? Je ne pense pas, parce que à la fois peut-être, mais je ne pense pas que la femme est non plus une limitation. C'est une manière justement de d'ouvrir à des propriétés inattendues un domaine qui leur était étranger, qui leur était fermé. Et justement, si l'on fait entrer le féminin et son hospitalité, c'est pas qu'on limiterait la femme à être un être de l'intérieur et de la maison, c'est parce que tout à coup, il y a une féminisation, on pourrait dire, du champ de meilleur j'utilise celui-ci, du champ entier d'une certaine ontologie, c'est-à-dire une compréhension de l'être. C'est-à-dire l'attention portée sur quelque chose qui n'était pas du tout présent dans des pensées comme celle de Husserl, comme celle de Heidegger, c'était pas totalement absent, mais pas de la même manière, ou celle de Descartes à plus forte raison, ou celle de Kant, et puis éliminer, on pourrait presque dire, par principe, la femme dans sa théorie du sujet, qui est incontestablement et nécessairement masculin, faire glisser là-dedans le féminin, tout à coup, va transformer le point de vue. Et faire glisser une relation à l'animal, qu'on ne peut pas appeler une humanisation de l'animal, comme l'a rappelé également Paulette, mais ni non plus une animalisation complète, une bestialisation, si l'on pourrait dire, de l'homme, mais quelque chose de différent, quelque chose qui est une propriété extra-humaine, tout en étant affectée de caractères qui font que incontestablement l'animal a une relation à l'homme qui n'en fait pas du tout un être inférieur. Tout ça, c'est quelque chose qui ouvre le champ de réflexion philosophique. Alors, vous disiez, vous posiez la question en quoi la philosophie actuelle peut pénétrer dans l'esprit des gens. Je pense que c'est par là, c'est-à-dire en élargissant ce champ de la réflexion philosophique. Ça ne veut pas dire que ce soit les seules philosophies possibles, il y en a d'autres qui existent. Et il y a même des valeurs sociales ou politiques ou morales qui peuvent être portées par d'autres philosophies. Je pense que la philosophie kantienne, par exemple, peut continuer à porter parmi nous un certain nombre de valeurs très intéressantes et qui permettent d'exercer la réflexion, mais qui restent limitées malgré tout relativement à cet autre genre de philosophie qui apporte des déplacements très importants dans la manière d'aborder les problèmes, et qui est plus en accord d'ailleurs avec certaines autres tendances qui seront par exemple celles de l'écologie, celles de la relation de l'homme avec le vivant dans son ensemble, le fait que sans mépriser par exemple le principe des droits de l'homme, c'est ridicule, on peut dire qu'il est tout à fait insuffisant si on l'étend enfin aux droits du vivant, c'est absolument certain, et qu'on risque toujours de tomber dans des hiérarchisations extrêmement dangereuses, c'est-à-dire des échelles de droits où certains en auront plus que d'autres, où certains sont considérés comme supérieurs, etc. Mais donc il y a quelque chose qui suit justement ce mouvement d'élargissement conceptuel, d'ouverture de champs et de déplacement des champs conceptuels qui caractérise ce genre de philosophie qui sont difficiles à cerner, c'est certain. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez des difficultés à suivre certains vocabulaires. Je pense, moi aussi, j'ai certaines difficultés à suivre le vocabulaire de Lévinas, qui d'ailleurs est un vocabulaire brisé aussi, construit souvent à l'aide de traits d'union, qui fait entrer justement des choses qui auparavant étaient dissociées, qui n'étaient pas liées entre elles, et en particulier, pour terminer là-dessus, puisque c'était hospitalité qui m'avait induit à cette petite incursion, quand il parle, justement, quand il fait entrer ces notions dans ces traits d'union, d'une pensée essentiellement ouverte à l'hospitalité et qui donne à ce moment-là une extension à ce concept d'hospitalité qui va au-delà de ce qui est compris en général par ce terme. Ou alors un autre terme qui est aussi tout à fait central dans la pensée de Lévinas dont il appartient de parler d'ailleurs à Paulette Galzé en tant que bien connaissant beaucoup mieux cette pensée, c'est ce
qui ment, il ment.
C'est-à-dire le fait de rupture avec la notion que la philosophie, avec l'idée que la philosophie dépendrait d'un principe unique, comme le je pense, par exemple, de Descartes, ou comme l'être même que l'on trouve chez les auteurs anciens ou que l'on trouve chez Heidegger, il y a une rupture justement avec cette dépendance à l'égard d'une arché ou principe. Donc Lévinas appelle cela l'anarchie, une anarchie philosophique qui d'ailleurs va à la rencontre aussi d'une certaine forme d'anarchie et de critique des pouvoirs dans le domaine politique, c'est-à-dire dans certaines des institutions dans le domaine politique.
Et merci René. Pour ajouter quelque chose à cette question d'anarchie, je vais juste rajouter que cette anarchie est bien sûr pas une anarchie politique dans le sens classique. Hein. Lévinas n'est pas un anarchiste, mais tient beaucoup à cette anarchie qui serait effectivement une histoire de l'origine, c'est-à-dire il n'y a pas d'origine dans cette philosophie, il n'y a pas de fondement ou de fondation, et ça a comme conséquence que toute une philosophie qui est construite sur le droit d'un tiers exclu, et ce tiers exclu serait toujours en dette, la justice est toujours endettée par rapport à ce tiers exclu. Donc la justice vient après coup. Et il y a un moment donné où il dit, dès que le tiers est là, le problème de l'injustice commence. Parce que je ne sais plus qui précède. Si l'autre doit précéder, s'il y a deux autres, c'est la naissance de la justice. Donc le fondement de la justice est déjà l'injustice. Maintenant, Derrida a fait un travail sur ça en parlant de parjure. Et chez Lévinas, ça nous conduit à... C'est très intéressant pour ce qui en résulte au niveau politique, même si ce n'est pas un anarchisme classique. Je pense que c'est tout à fait fertile pour penser une autre manière de non faire de la politique, peut-être de la micro-politique, mais en tout cas une éthique qui laisserait des traces bien concrètes. Bon, merci à vous tous. Il fait froid rentrant.
Thank you.